Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Voix d'Autrement, une émission réalisée par l'association Quoi de Neuf grâce au soutien de la Fondation pour le lien social de la Croix-Rouge.
Les Voix d'Autrement, moi je vois VOIES.
Ah, toi tu vois Les Voix d'Autrement?
Ouais, les voix, la façon de faire les choses autrement.
D'accord, un cheminement.
Cheminement autre.
On dit que la voix qui parle est le plus court chemin d'un homme à un autre.
Puis on est autrement, on est tous autrement de toute façon.
Et quand les reporters sans œillères prennent la parole et qu'ils se racontent, l'histoire n'est plus la même. Et les chemins qui les mènent sont des voies d'autrement.
Oskina chutara nai, pochara tuki no ao, pichara o pitne aya, kokroshina ote, porochara koyota tanope, orina turi ni chote makawa, opatara tu no koyena shayara po. Nara ta ope moshna boyoyote Koknora du ya wamba Orina ya chura na pe Pochotona Kopochara yono Mara ta ope Hei ere neche wamba rata ya Kacha no boi amba kara ya Mori mata watai, macharana koyama. E te yoro tino na yochara na pocho te taue. Mare yo na ya tochi na no ya ora jana no poka cha wapati. Moro chi na ola e cha momo na na, na wa ya shaiwa ya.
La voix, tiens, voilà, je vais en parler, comme ça je peux mettre les mots, la traduction en direct. Alors c'est, je sais pas, moi ça me fait beaucoup penser à un mélange entre une espèce de langage asiatique et amérindien, mais je sais pas parler japonais, chinois ou aucun langage de ces formes-là. Je suis sur des langues bien cartésiennes et récentes, dans tous les cas. En tout cas par apprentissage, et là j'ai parlé surtout de la nature. Donc j'ai fermé les yeux et puis je me suis projeté simplement sur de ce que la lune, le soleil m'apportent, me font du bien et portent tout court. Les arbres, après je me suis un petit peu... l'émotion a parlé un peu plus parce que... En ce moment, à Florac, ça débite lourd des arbres. Voilà, certains entendent que les bruits de tronçonneuses. Moi, j'entends les gémissements des arbres quand ils se font achever, qui tombent au sol, quoi. Donc, ça me fait de la peine. Et puis, on l'a tué, mais tu vois, tu crois que l'arbre, il le sait pas, ça ? Enfin, je sais pas. L'arbre, il croit quoi? Il est là dans le même bois que les autres. Il se doute bien qu'il va y passer. C'est pas con, un arbre. Enfin, un être vivant, en fin de compte. Ça se limite pas qu'aux arbres, parce qu'après, j'ai parlé aussi des rochers, des chemins d'eau que je suis. Parce que là, ouais, j'ai un peu développé sur le coup de l'arbre. J'ai pas parlé autant de l'abattement des arbres, plus du mien, là, en l'occurrence. De ce que ça apporte la terre dans le ressenti pour un être, et puis spontanément. Le début du chant, je pense qu'il était assez lâché, mais il faut peut-être vraiment que je sois dans la nature, et que ce chant-là, d'ailleurs, il peut peut-être vraiment avoir toute sa substance qu'en pleine nature, ça j'en sais rien, ça fait partie des... C'est indépendant de mon nouveau chemin, quoi. Il a, comme tout le reste de mon chemin, c'est un pur éventail. Il y a plein de pistes différentes. Et après, ben, chacune progresse à sa manière, quoi. Cette forme d'expression, parce que je peux même pas parler d'un langage à proprement parler, il y a vraiment un moment ou un autre où le mental s'éteint complètement, et où juste une intention, donc la volonté, le côté très intemporel et détaché de notre être, s'exprime, et où finalement le corps, lui, ne sert plus que d'émetteur, n'est qu'un simple émetteur, quoi. Je me demande si finalement j'ai pas, par ma sensibilité, simplement peut-être une meilleure capacité de réception, je suis sur la bonne longueur d'onde finalement pour recevoir quelque chose que je me contente d'émettre, sans être autre chose qu'un émetteur, en n'étant ni acteur et encore moins maître d'œuvre, quoi. Je sais que quand j'arrive à exprimer ça, il n'y a rien de négatif, même pas tout au fond, qui le nourrit, donc ça ne peut faire de mal à personne. Au pire, ça va faire du bien. Enfin, non, au pire, ça fera rien, et au mieux, ça fera du bien, quoi. Voilà, bah en tout cas, je me suis bien éclaté, encore une fois. Vive le micro, vive la radio. Et merci à toute notre petite équipe et à tout ce que ça apporte, quoi.
Alors Stéphane, là, on vient de faire on a arpenté un petit peu Florac, et là, ouais. Tu, en passant devant un pêcher, donc tu as commencé à me prendre une fleur, voilà. Et en remontant toute l'esplanade aussi, voilà. Me faire goûter, voilà. Ça et là, des sommités.
C'est un art ou c'est un don? C'est le don du cueilleur instinctif. Si on l'a, si on ne l'a pas. Et ça vient. Et c'est une pratique, moi j'ai 11 ans de pratique. Et c'est une gourmandise, c'est le désir, ça devient un appétit. C'est une possibilité d'assouvir un appétit, mais d'un appétit, c'est peu de choses dans la bouche, mais c'est fort. Et ça fait un effet particulier, donc c'est cet effet. J'ai l'œil, j'ai les jours, aujourd'hui je sens, aujourd'hui je sens pas. Parce que je sais où aller, c'est ça aussi. Je sais quelle plante, mais je sais où aller la chercher. L'instinct.
D'accord.
Je sors, si j'ai une envie de plante, je vais faire un kilomètre et je vais aller là.
Mais est-ce que c'est une expérimentation purement instinctive, ou est-ce que tu connais
les effets,
les fleurs que tu manges?
Non, je connais un peu, j'ai appris ça à l'école, ça.
D'accord.
Mais non, je les connais pas. Je les mange sans les connaître.
D'accord. Et tu testes les effets pour savoir
si... Mais je les goûte. Je les goûte, j'apprends bien sur ma langue, là, je crois qu'avec mes dents. Et je sens au fur et à mesure. Parce que des fois, il y a des pièges. Mmh. Il y a des choses qui te bolent. Cueillir, moi, c'est cueillir, manger. C'est pas cueillir, faire des tisanes, ça je l'ai pas encore.
D'accord.
Je fais pas de stock, je fais pas de réserve.
D'accord. Ça va directement de la main à la bouche, en fait.
Ouais, c'est ça, ouais. Direct, c'est direct. En 11 ans de cueillette, j'ai eu un accident. C'était une racine. Mais j'étais à la limite de partir à l'hôpital, quoi. J'ai senti, je suis resté. Puis bon, j'ai traversé, ça m'a duré 2 heures. J'ai eu un accident. Et avec les eaux florales, là, ça peut être violent, quoi. Et je l'ai fait, mais je les donne pas. Enfin, si. Je les donne, j'en ai donné plusieurs fois. J'en donne quand je suis hospitalisé en psychiatrie. On a le droit de mettre la table, de préparer le couvert, et on met l'eau. Et là, j'amène ma petite fiole et toc toc, j'en mets pour tout le monde.
D'accord.
Donc j'ai une expérience comme ça.
D'accord.
J'ai déjà.
Donc elle aura su. ils le savent pas.
Non.
D'accord. Ouais. Alors ces eaux florales, c'est aussi complètement empirique, expérimental.
Alors ça vient de l'ère du Verseau, ça vient de ça quoi, ça une cinquantaine d'années. Le principe, c'est prendre une coupe. Mettre de l'eau, une belle eau, une eau de source, ou une eau minérale, ou une eau sympa. Là, trouver un bel endroit dans le jardin, ou dans un espace de nature, remplir la coupe, et fleurir la coupe avec les plantes qui sont autour. Alors, la technique de base, c'est choisir une espèce, c'est l'eau florale de telle plante. Alors, moi, ma technique, c'est l'eau florale du jardin, avec toutes les plantes du jardin. Par contre, pour l'utiliser, ça, pour trouver des vertus, tu vois, parce que quand t'es vertu de telle plante, mais vertu du jardin, à telle époque, tel jour, tel endroit. Alors après, je fais des associations et j'ai un médicament, c'est ça.
Donc c'est aussi de l'automédication, c'est ça?
C'est de l'automédication, mais je peux la donner et j'ai un médicament.
D'accord.
Qui comprend une infinité. Alors, parce que je suis désespéré de voir que les gens, ils refusent, ils ont un refus. Ils ont un refus de la plante. C'est général, ceux qui se laissent aller, c'est rare. Et c'est pas... C'est, ça peut être une fois, mais... Bon, moi, dans ma réalité, je sais cueillir. Et je vois que personne ne veut cueillir. C'est l'inverse. Alors... C'est-à-dire, toutes les plantes sont bonnes, mais il y a un refus. C'est quoi ce péché originel, là? Je comprends pas. L'humain, il est bridé par quelque chose, ce qui fait qu'il est tout lui offert. Il n'a qu'à cueillir, sortir, marcher, sentir. Alors, pour moi, la source du péché, c'est infini, symbolique et absolu. J'ai écrit péché, avec le « et ». Pas péché l'arbre, péché. Pour moi, c'est la source du péché. Alors voilà, la source du péché, c'est Adam et Ève. Mais pour ça, c'est beau. La source du péché, c'est une source magnifique.
Alors, tu vois, tu me parles aussi de tes sculptures.
Ah, sculpture, c'est argile. Modelage, c'est...
Que tu... Voilà.
Voilà, que je pose là où je sens qu'il faut la poser. Alors, c'est pour moi, c'est d'avoir de la terre. Donc, je demande combien je sens dans ma main. Je sais combien de terre. J'ai mon endroit. J'y vais, je choisis. Il y a différentes espèces. Donc, j'ai ma terre à proximité. Après, j'ai mon instant et je sens si c'est le moment. Quand j'ai envie, je me mets. Je prends une certaine quantité. Alors, j'ai un premier travail, c'est décorticage, tout ça. Donc là, c'est faire une belle boule, bien serrée, bien lisse. Ça, c'est facile, ça me prend 10 minutes, un quart d'heure. Et après, elle est prête. Je fais un socle. Je tape pour qu'elle soit stable. Je tape comme ça. Et après, c'est modelage. Et là, ça vient. Donc, j'ai mon démarrage. Donc, je fais une tête qui m'apparaît. Voilà, voici. Ça me plaît pas forcément. J'aimerais faire des choses autres, mais je suis bloqué. Bon, alors, je fais mes têtes. Je l'ai séché. Et après, j'ai mon temps, je sens où ils emmenaient. Alors, j'ai démarré, j'ai fait une première série, je sais pas, je savais quoi, 60 kilos de terre. Et je les ai posés sur le seuil du temple et sur le seuil de l'église. J'en mets 5-6. Et là, je laisse faire. Pour moi, le travail est fini. J'ai reçu de la poser. Si on me la casse, c'est pas grave, s'ils savaient. Et ce qu'elle devient, voilà. Et après, je les récupère et je leur fais faire un voyage. Alors, j'ai commencé, le premier voyage, c'était... Je les ai enterrés dans le cimetière. Dans mon jardin. Dans la source, tout ça, dans toutes les sources. Deuxième voyage, c'était... je les ai déplacés dans la ville. Dans les petites ruelles, comme ça. Petit à petit, j'en avais... À la fin, j'en ai récupéré 13. Je les ai placés dans les villes et après j'ai une poterie, qui est un bol à eau florale, où je mets du sel et je les arrose. Je rentre à la maison, et là ça siffle. Il y a le son de base, le son du silence, c'est un son. Si on écoute, ça fait une vibration, un sifflement. Et ça varie. Et quand je manipule mes têtes, j'arrive à la maison, ça siffle. Mais ça me déchire les oreilles. Donc les têtes. Et alors, c'est quoi? C'est de la dynamisation de seuil. Mais c'est un travail global. Avec les têtes, il y a plusieurs éléments. Je fais des figurines, hein, tu vois, etc. etc. L'aboutissement, c'est, pour moi, enfin, ça vibre, c'est un travail d'énergie. Et là, je ne connais pas l'aboutissement. Il est pour tout le monde, il est pour chacun. Mais les forces en œuvre majeures, l'axe fixe pour moi, c'est, pour moi personnellement, c'est la spiritualité. Donc la spiritualité de la ville, de la communauté, telle qu'elle est. Et pour moi, la vision du futur. Alors après, ma dimension, c'est tu viens dans cette ville, et c'est toi. C'est ma... Parce que je reçois. Alors j'ai une partie, je fais des dessins. Je les mets sur le temple. Je les ai reçus, mes dessins. Ils deviennent ce qu'ils deviennent. Et souvent, ils sont arrachés. Par celui qui tient le temple. Il tient le temple de qui? C'est qui son maître? Moi, ça vient de lui. Je lui mets, il l'arrache. Il me sort son vieux livre, sa vieille Bible, qui a 2000 ans. Mais ça, c'est une dynamique de la tristesse. Pour mon intérieur, ils sont sur ce vieux livre, ils sont accrochés à ce vieux livre. Et l'église se vide, il n'y a plus personne, et le culte s'éteint. J'ai une pratique extérieure de statuettes, de cueillettes, etc. Mais j'ai une pratique intérieure de méditation qui est en lien avec mon énergie. J'ai vraiment des vides d'énergie. Et là, je médite. Alors, méditer, pour moi, c'est silence intérieur, silence du mental. C'est-à-dire les images intérieures, les êtres qui visitent, qui viennent à la pensée, les êtres de son entourage à qui on pense. Mais c'est même pas à qui on pense, c'est qui viennent, la pensée qui apparaît. Et après, il y a le mental qui, lui, accroche des histoires à tout ce qui bouge. Et qui fait une histoire. Donc, pour moi, la méditation, c'est décrocher le mental, contempler et laisser faire. Alors, ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est prier. Prier, pour moi, c'est tenir cet axe. Et ça, pour moi, la pratique extérieure, faire une statuette, c'est pas un travail, c'est reçu. Mais tenir l'axe intérieur, ça, c'est la nature du travail intérieur. Qu'un travail réel, pour moi. Tenir, c'est double, c'est deux choses à tenir. L'axe intérieur, toi, Baba, l'être, Dieu, le sens, qui fait que je suis, qui fait que le monde est déployé, qui fait que tout est. Et c'est la parcelle qui m'apparaît. Et c'est tenir, c'est un travail de tenir ces deux choses en conscience. Moi, j'ai une conscience des images de mon ancien endroit. Bon, je suis venu, j'ai passé longtemps de ma vie à expérimenter, explorer. Et maintenant, j'ai un endroit sur Terre qui m'apparaît de façon continue. Et de ça, je regarde et je tire une source d'énergie. C'est pas une image, c'est une image nourriture. Donc mon intérieur, ma conscience, elle est axée sur des images nourriture. C'est une image de... Comment on pourrait appeler ça ? De repos. Je descends, je vais à l'intérieur de moi-même, je vais consulter mon livre, qui je suis. Je vois le livre, je prends le livre, je porte le livre, je monte l'escalier, je vois la lumière, je m'assieds, j'ouvre le livre, et là, je lis.
Il y a toujours quelque chose d'écrit dans le livre ?
C'est pas forcément écrit, c'est sentir. Et c'est la première idée qui passe. Et c'est le sentiment, c'est la sensation.
La méditation, c'est un cheval au galop, quoi. Une fois que t'es lancé, ça vient de soi-même.
Mon voyage, il est déjà commencé, il est prévu, et c'est une retrouvaille. Le premier regard de l'autre côté, c'est vers moi. Donc c'est vers moi, c'est vers Dieu. Et c'est de sauter dedans.
Notamment chez les gamins, quand on est petit rat, qu'on te fait travailler souvent, surtout la gamme, tantan, 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 ça là. Bon, en fait, il y a longtemps que de ça, ça me gavait complètement, mais après, j'ai appris à aimer cette musique plus tard, bien plus tard, peut-être 30 ans après. Et depuis, je m'en passe plus, chaque fois que je l'entends, je suis heureux, pendant 2-3 minutes, c'est déjà ça, sur une journée.
J'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un foulard tressé de chanvre il était.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard pour graines d'ananas. Il y avait des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. Oh, c'est pas moi qui le dis, non, c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait « Où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société ?» Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi, c'est jamais peinard. La graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous le dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. La belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard. La graine d'ananas. Potent se double, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau, comme elle est amie. Mais auparavant, j'aurais comme le vent semé quelque part, ma graine d'ananas.
Quel vent vous apportez ici ? On commence par toi, Tchouk.
En gros, c'est une question économique, la cherté des loyers en ville, le manque de convivialité, etc. etc.
Voilà. Et t'as atterri à Bar-des-Cévennes sans connaître avant? T'es pas venu parce que...
Par hasard, parce qu'un ami venait en vacances l'été. Il m'a amené une fois, une semaine, 15 jours, j'ai pu trouver un logement. Mais voilà. J'étais à Montauban. Mais j'ai passé ma jeunesse en Aveyron. Et donc, ça me rappelle, on revient un peu... c'est un peu le même truc, quoi, depuis 1997.
Et tu y fais quoi, Bar, en fait?
Pas grand-chose, à vrai dire.
Ben, dans la plaine de Nîmes, j'habitais dans un petit village où, localement, il y avait un endroit où je sentais de très belles et très bonnes énergies, et je m'y sentais très, 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 très bien. Et j'ai découvert, en Lozère particulièrement, plus que dans le reste des Cévennes, cette même énergie, mais à un niveau départemental et non plus micro-local, quoi. Donc c'est vraiment dans un vent de liberté et de recherche spirituelle qui m'amène ici, quoi. Et au vu du chemin que je fais, je ne me suis pas trompé de route.
Qu'est-ce qui t'avait poussé dans les Cévennes?
C'est le hasard et les rencontres qui ont fait que des personnes qui me sont chères sont établies par ici. Des rencontres aussi que j'ai fait chez des apiculteurs avec qui j'ai travaillé un petit peu quelques semaines. Et puis parce que ça ressemble un peu à chez moi, beaucoup, à part les oliviers. Donc moi je suis originaire de Corse, alors effectivement ça ressemble. Et puis pour y trouver un peu de paix, de tranquillité, d'humanité, parce qu'en Lozère, on est quand même à échelle humaine. Quand on a l'habitude de vivre à Paris ou ailleurs, on apprécie beaucoup ce genre de petits détails qui n'en sont pas d'ailleurs, et qui font que les gens vous regardent déjà, voilà, ne serait-ce que ça. Et ont une considération toute simple, mais qui est très importante. Voilà, il n'y a pas qu'ici nécessairement, mais moi le hasard m'a amené là. Bon, c'est beau les Cévennes, hein, faut pas... voilà, il y a un parc national et tout. Et il faut y penser, quoi, aussi. Que moi, je suis un écolo, je ne me sens pas avoir un impact particulier sur mon environnement, c'est bien aussi ça. Mais ici, les gens sont très préoccupés par leur environnement. Ils sont au taquet, vraiment. Et ça, j'apprécie beaucoup. Autour de moi, je vois des gens très sérieux, plein, qui sont hyper motivés. Et bon, ça c'est quand même très motivant, du coup, d'habiter dans les Cévennes.
Donc toi, l'insulaire, tu retrouves une forme d'île...
Absolument, en Lozère, oui.
En Lozère.
Ah oui, c'est sûr.
Voilà.
Ah,
c'est tu sûr. Cherches désespérément la mer comme nous, mais...
la mer, oui. Effectivement, ça me manque beaucoup, je reconnais. Et j'essaie d'établir un pont entre la Corse et les Cévennes. Moi, dans l'idéal, ce serait l'apiculture, évidemment. Mais ça peut être aussi pastoral, pourquoi pas, voilà quoi. Et du moment que c'est les bêtes et les abeilles, moi, ça me convient.
Bon, en plus, des troncs et des ruches troncs, c'est facile à faire, ouais, c'est facile à construire. Donc tu pourrais devenir très rapidement apiculteur, en fait.
Et c'est-à-dire qu'apiculteur, c'est quand même un métier. Hein. Faut pas déconner avec ça. Ne vous lancez pas comme ça à l'aveuglette. Allez voir des professionnels avant. Et c'est un peu comme l'acupuncture, si vous voulez. Allez voir un bon. Et les apiculteurs, c'est pareil. Il y a ceux qui sont là pour le pognon et il y a ceux qui sont là parce qu'ils aiment les abeilles. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et le juste milieu, c'est ceux qui aiment les abeilles. Et voilà, moi, je connais que des gens comme ça. Et en plus, ils font plein de choses. Je veux dire, c'est des gens qui se consacrent beaucoup aux autres. Et bon, ça fait quand même du bien, quand on est quelqu'un comme moi, totalement sauvage quand même, de trouver des gens un peu ouverts. J'ai quand même l'habitude de parler à des gens un peu fermés, moi, en général, et pas très loquaces. Donc moi, je parle à leur place. C'est tout simple.
T'es un ambassadeur des muets ?
Absolument.
D'accord.
Un ambassadeur des muets.
Un projet d'installation s'est plus ou moins dessiné pour nous. Donc on s'est installé d'abord en Lozère Nord. Finalement, il n'a pas pu se concrétiser. Et quand il a été temps pour moi de reprendre une activité économique après la naissance de mes enfants, l'offre d'emploi à Quoi de Neuf s'est présentée. Donc j'ai postulé et je suis arrivée ici. Donc après avoir passé quand même un an et demi dans le Nord Lozère, où je me sentais quand même relativement très bien, le fait d'arriver dans le Sud, je ne pensais pas, effectivement, je n'avais pas senti ça en tant que touriste auparavant, qu'il y avait une différence aussi importante quand même dans les relations humaines, dans la diversité aussi des gens. Et ce qui m'a frappé assez rapidement, alors bon, c'est vrai que j'ai aussi un boulot dans lequel je rencontre énormément de gens. Donc, pour moi, c'est important, c'est presque une chance hein, d'ailleurs d'avoir ce travail-là, de pouvoir rencontrer des gens différents. Mais dans la vie privée, bon, je rencontre aussi les mêmes personnes, hein, on vit ensemble ici, d'une certaine façon. Ce qui nous a marqué, ce qui m'a marqué, moi en particulier, c'est le fait que, même si j'accroche avec les autochtones, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Et du coup, ça crée quand même un climat... peut-être plus ouvert que ce qu'on peut trouver dans d'autres campagnes, dans d'autres
endroits. À la montagne en général.
Peut-être, ouais. Donc ça... Du coup, pour la première fois de ma vie, je me dis qu'ici, c'est un endroit où je peux me projeter à long terme. Voilà.
Et pour rejoindre un peu ce que disait Serge ou même Cécile, qui a effectivement ici une espèce de microcosme dans les relations humaines, où il y a une solidarité, une entraide spontanée, finalement, que je trouve juste merveilleuse, quoi. Il y a un peu de magie, justement, dans le relationnel que peut proposer cette montagne, quoi, à vivre pour les gens, et voilà, c'est génial. J'aime mes arbres, hein. J'aime ce côté de là où réussit à me porter la nature, à me transcender, à aller plus loin que ce que je pensais pouvoir aller, même au cours d'une vie entière. Et je suis curieux de voir où ça va porter au-delà de moi, justement, les personnes qu'il peut y avoir autour, quoi, dans cette dynamique.
Et tu ressens la sensibilité des arbres ?
Ouais.
C'est pas mal.
Par la nature en règle générale, mais les arbres en particulier, je sais pas pourquoi, ça a toujours été le cas. Et ben, une autre approche, parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui, sur le plan en tout cas du système économique monde qui va dans le mur, enfin qui est déjà dans le mur, mais pas totalement écrasé encore dedans, et où nos générations actuelles ont conscience, pour beaucoup, et j'espère aussi pour certains, la lucidité de se rendre compte qu'il faut le changer.
T'es un marcheur, Tchouk.
Ouais, mais c'est ce que j'ai dit, marcheur et champignon, en gros.
Voilà, passionné de cartographie aussi,
Oui, on peut dire ça.
Et t'as des chemins particuliers que tu aimes emprunter ?
Ça peut être le GR7 en allant vers le relais. Ça dépend du vent. Il y a des endroits à l'abri où je vais quand il fait du vent, des endroits quand il n'y a pas de vent, je vais ailleurs. Il faut connaître vraiment c'est le chemin alentour bar, hein, à 5 km autour, 10 km autour, voilà, en gros.
D'accord. Et tu trouves quoi ?
Surtout pas côté Sévenol, parce que c'est côté plateau, parce que ça, il y a moins de dénivelé. On ne marche pas pour trouver, forcément, on trouve quoi ? C'est pas... Trouver quoi ?
Soit.
Ben, la marche, c'est pour... Comme ça. J'établis pas une philosophie de la marche. C'est...
Pour la blande arena qu'elle aime le mal, tu pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño dormida, Alfonsina vestida de mar.
Détérioration lente, insidieuse et pernicieuse des paysages. Par des bâtiments qui se sont construits en 20 ans, j'ai vu à peu près, je me suis pas mal trimballé en scooter sur tout le territoire du parc. Et je trouve que ça se... Enfin, quand on connaît bien en détail des trucs, je vois que, je sais pas, il y a des bâtisses qui n'ont pas lieu d'être, des endroits détériorés, etc. Je ne peux pas en dresser la liste, mais enfin, je m'en suis aperçu. Voilà. Le mitage du paysage. D'ailleurs, j'en avais discuté avec une femme architecte qui connaît le Mont-Lozère depuis plus de 40 ans. Et elle disait exactement pareil, comment ça s'appelle, le mitage du paysage, des constructions. C'était pas du tout. C'était complètement sauvage il y a 30 ou 40 ans. Et malgré qu'on soit en zone protégée, ça a changé.
Et donc,
il faut y vivre depuis assez longtemps ici pour s'en apercevoir.
Donc tu fais le tour de la Lozère en scooter et tu... Et
plus
tu...
que de la Lozère, mais j'ai dû faire un scooter sur le territoire du parc et alentour, Sud-Aveyron, Ardèche, tout, j'ai dû faire 30 000 bornes. Donc il y a des endroits où je suis repassé plusieurs fois, tout, j'ai vu qu'il y a des trucs qui ont bougé.
D'accord.
C'est pas si évident comme ça, du coup il faut y passer plusieurs années, plusieurs fois.
Mais un paysage, ça bouge toujours, ça évolue tout le temps, donc c'est...
Mais normalement, la zone centrale, c'est protégé, les 90 000 hectares, ils arrivent quand même à... J'en sais rien, mais l'évolution des trucs, il y a des endroits, il y a des pylônes partout, il n'y avait pas un pylône avant. Par exemple, les pylônes, c'est peut-être nécessaire, mais pour la télé, la radio, etc. Ça a bougé, je trouve que ça a beaucoup bougé, pour un endroit dit très protégé.
Cette obsession de toujours vouloir maîtriser la nature et tout, je trouve ça obscène. C'est tout.
Et puis illusoire.
Ah, absolument, dérisoire surtout.
Coup de cœur, c'est que ça reste quand même un pays à hauteur d'homme. Pour les rapports humains, pour etc. Ça n'a pas trop bougé. Quoi.
Et ça, c'est rassurant.
Ben oui, ça, pour moi, oui. C'est ce que je cherche.
Ce qui est rassurant, c'est que, en général, les montagnards sont pas si accessibles. Moi, je les connais bien. Et je le sais. C'est bon. Et ici, paradoxalement, l'altitude, ça, enfin, quoique relative, ça ne dérange pas tellement les gens dans leur caractère. Voilà. Et chez le Lozérien, il y a quand même une constance que j'ai remarquée. C'est des gens que je vois tous les jours, qui vont travailler, ou bien deux personnes, un couple de personnes âgées que j'ai vu passer il y a 3-4 jours de ça, et qui portaient leur chaise, parce qu'ils avaient passé l'après-midi au soleil. Et ils portaient une belle chaise en bois. Et ils marchaient tranquillement, ils revenaient à leur maison. Chacun tenait un bras de chaise. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment une vision du bonheur, d'une constance. Ce qui me paraît, pour moi, la qualité essentielle.
Tu peux me rappeler le proverbe ?
Casse tes os plutôt que ton renom.
Alors j'ai les os en verre. J'irai jamais risquer de sacrifier mon intégrité pour une parcelle de...
D'ego.
D'ego, ouais, c'est ça.
C'est vrai.
Merci de me l'avoir soufflé.
Je t'en prie.
Donc t'as les os de verre.
Bah, de toute façon... Au vu de mon passif, vaut mieux qu'il le soit resté, ouais. Mmh. Sinon, bof, ça ferait pas une belle personne.
Tchouk ?
Pas du tout les os solides, je suis pour la disparition, la dissimulation, l'éloge de la fuite.
Il vaut mieux avoir à demander pardon que d'avoir à demander la permission. Et ça, aujourd'hui, j'adhère assez personnellement à ce genre de phrase, voilà.
Chez nous, c'est hyper important, la réputation, l'honneur, tout ça. Bon, personnellement, moi, les trucs falos, machin, ça me gonfle un peu, mais je reconnais que je suis toujours assez attaché à ça, parce que, bon, voilà, quoi, on sort un peu du moule. On n'a pas le choix, trop. Il y a des atavismes chez nous, il y a tout ça. Et en tant que méditerranéen, je suis comme ça. C'est dans ma nature. Mais je me bats aussi contre ça, parce que, bon, en même temps, c'est pas trop non plus. C'est, l'honneur dans la vie, c'est quoi ? C'est respecter sa parole, juste ça, et surtout les autres. Voilà, c'est ça, l'honneur. Il n'y a rien de plus. Et finalement, je me méfie plus de la révolte qui tarde que de celle qui est précoce. Et en ce qui concerne les rituels, je vous dirais, fabriquez-vous vos propres rituels. Si vous croyez, moi je vous encourage à croire encore plus. Et la foi, c'est plus important que tout. C'est plus important que Dieu, c'est plus important que tout. Votre foi, travaillez-la et soyez heureux tout le temps. Perdez pas de temps, ne vous ennuyez pas même une seconde. Ne laissez pas l'ennui vous prendre la tête une seule seconde. Si vous faites ça, vous êtes cuit.
Ne bouge, stoppe ta parano, cesse ta schizophrène, reste souple. Rien ne bouge, reste souple, ne sois pas louche.
Ça fait combien, 3 millions d'années là, Lucie, là, The Sky, with Diamonds hein. Tout ce qui a été fait, c'est avec la sueur et le sang du peuple. Il y en a qui se sont gavés. Hein, de Louis XIV, ils ont aussi sous sa perruque, il devait suer quand même un peu. Et donc, aux enfants de demain, bah, avec tout ce qu'on leur laisse du merguez aussi. Hein. Parce que je disais à mon fils, je dis, vous avez du pain sur la planche. Hein. Moi, je ne vais pas voir la suite de l'histoire, mais enfin, avec au niveau pollution, destruction de la planète, il n'y a pas d'histoire. Il y a du pain sur la planche. Alors qu'en même temps, il y a tous les outils pour à peu près réparer les dégâts. Mais pour réparer les dégâts, moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Même dans un pays comme la France, on a besoin de tout, que tout le monde se mette au boulot pour réparer les dégâts, quoi, pour essayer d'inverser la vapeur, arrêter les conneries et puis réparer les dégâts, parce que c'est maintenant. Quoi. Et donc les générations, moi j'ai 67 balais, donc bon, je sais pas, 15 ans, je verrai pas, peut-être pas la fin, de toute façon on la verra pas à la fin de l'histoire. Parce qu'il y a toujours eu, je pense, à chaque époque, il y a des gens inspirés, on va dire, les initiés ou quoi que ce soit, qui ont atteint des niveaux de conscience très élevés. Mais le challenge, c'est que tout le monde... que ce soit partagé, quoi. Toujours tendre à l'harmonie avec ton environnement, avec la planète, avec les gens, quoi, de toute façon. Parce qu'ils se confondent, là, dans toutes ces sociétés, là, ces soi-disant démocraties, ils confondent l'ordre et l'harmonie. Moi, l'idéal, c'est chercher l'harmonie, quoi. Dans un orchestre symphonique, il y a de l'ordre, effectivement. Mais l'harmonie inclut l'ordre, mais l'inverse n'est pas vrai. Voilà quoi, l'harmonie inclut l'ordre, et si on ne cherche pas l'harmonie, c'est facile, l'ordre, il suffit d'avoir des bottes, hein, des armes, c'est ce qui se passe, mais ça ne résoudra jamais les problèmes. Comme il parle de gardien de la paix, il n'y a pas de gardien de la paix, où voit-on la paix là? On n'est pas en paix, on est en guerre. Ça déjà, oui, pour qu'il puisse résister, déjà prendre conscience qu'on est toujours en guerre. Tant qu'il y aura des gens enfermés, des gens en train de crever de faim et tout, ici, même dans les pays riches, on est en guerre. Lucie Aubrac, eh bien c'est ça, la résistance, c'est refuser ce qui est injuste et se battre par tous les moyens, d'une façon ou d'une autre, en étant le grain de sable, hein, comme je dis, à l'armée, à la banque, partout où je suis passé, j'ai essayé d'être le poil à gratter, ou au moins, et puis des fois le poil a explosé, hein, mais bon, voilà, c'est résister, ça veut dire s'instruire, avoir l'esprit critique, toujours chercher les...
C'est les bases de l'humanisme, en fait.
Les bases de l'humanisme, c'est penser par soi-même, mais chercher des référents. Et puis après, on choisit ses références. Hein. Comme les références, je sais pas, ça peut être aussi bien Marius Jacob, Teilhard de Chardin, l'abbé Pierre, les Saladin, les Mirabel Belkader, enfin bon... Marius Jacob... Tout le monde connaît Bono, quoi, parce que la bande à Bono, ça a défrayé la chronique. C'est vrai que c'était un gros carton, là, l'exécution, parce qu'ils étaient, il y avait un régiment de CRS, il y avait je ne sais pas combien, des volontaires avec les fusils et tout. Ils étaient, je ne sais plus combien qu'ils étaient là, dans la baraque. Là. Bono, ils étaient 4 ou 5 contre 4000 hommes quoi, en face. Voilà. Marius Jacob, c'était les années 1905, là, le procès. C'était bon, la belle époque, les anarchistes, le mouvement anarchiste, ça démarrait, c'était l'après-commune, 1871, les communards, Louise Michel, Théophile Ferré, etc. Et cette mouvement, c'était l'international socialiste d'ailleurs. Le socialisme avait un autre sens à l'époque. Et en France, il y avait toute cette mouvance de gens qui refusaient le germinal, etc. Enfin bon. Et Marius Jacob, c'était des Marseillais, anarchistes avec un programme, quoi, une éthique. Ils avaient monté une équipe de voleurs, les travailleurs de la nuit. Quoi, enfin, 10% par exemple des revenus des cambriolages, c'était pour assister les potes en tôle et les familles. Donc ça, c'est moi, j'ai toujours fonctionné à peu près comme ça, hein, dans ma vie.
Le code d'honneur.
Le code d'honneur de solidarité, quoi, hein. Ouais, des mandats et tout ça, hein. On m'en a envoyé, mais j'en ai envoyé payer un avocat pour des potes qui étaient pas toujours reconnaissants, mais bon, ça fait rien, s'il y a que moi qui peux le faire, faut le faire, quoi. Et donc Marius Jacob, je pense que c'est un mec qui, puis en plus son discours, il a jamais 25 ans de bagne, il a évité la, enfin il y a le discours d'Amiens, enfin le procès d'Amiens, hein, qui était... J'ai un mec qui a des couilles comme ça, j'ai dit, mais c'est... On peut pas... Il m'a toujours été, quand j'étais face aux tribunaux, j'ai ouvert ma gueule des fois en sachant que je vais en prendre un peu, parce que bon, dernier coup, ça m'a valu 4 mois de prison. Enfin, j'étais content de lui balancer ça dans les dents, quoi. Que je me croyais devant un tribunal républicain et l'autre qui parlait de morale à propos de cannabis, au procureur, je leur ai dit, ben, je croyais devant un tribunal républicain, j'ai l'impression de me retrouver un tribunal de la Sainte Inquisition catholique. Et l'autre, ça a chauffé les oreilles, c'est ce qu'il a dit, le procureur. J'ai dit, oui, mais c'est comme ça. Mais c'est sûr que Desmarie Jacob, il m'a toujours soutenu, parce que lui, quand je suis face au tribunal, lui était gonflé, quoi. Il risquait sa tête, il risquait perpète, mais il a pas sa dignité, il la garde, quoi.
Jacob, Alexandre.
Présent.
Levez-vous.
Non, vous êtes bien assis, vous.
Et puis enlevez votre chapeau.
Pourquoi ? Vous restez bien couvert.
Vous êtes originaire de Marseille ?
Oui, et je m'en vante.
Vous avez fait de bonnes études primaires.
Gratuites et obligatoires. On a fait croire au peuple que c'était pour son bien, par souci du progrès social qu'on l'obligeait à s'instruire. Quel mensonge ! C'était pour en faire un singe savant, un esclave plus perfectionné aux mains des patrons.
Je ne vous demande pas votre avis.
Vous racontez ma vie devant tout le monde. J'ai mon mot à dire.
Oui, vous avez été marin. Les certificats de vos officiers sont généralement bons.
J'ai vu le monde, il n'était pas beau.
Le colonel Louis de Rennes s'était fait dérober un revolver.
Monsieur le Président, voudrait-il demander aux témoins si ce revolver était fait pour tuer ou pour guérir ? De tous les fléaux qui accablent les hommes, la guerre est le plus funeste. Au lieu de la combattre, des hommes, pour satisfaire leur ambition, ont remplacé le dogme de Dieu par celui de la patrie. On ne guerroie plus contre des infidèles, on civilise des insurgés. Malgré les progrès réalisés, l'homme est toujours un loup pour l'homme. Il s'arroge le droit de juger les hommes. Mais il ne met sa justice qu'au service des riches contre les pauvres. Il y a un siècle, les pénalités étaient atroces. Cependant, il n'y avait pas moins de crimes que maintenant. Au contraire. Donc ce n'est pas en punissant qu'on empêche la perpétuation des crimes.
Une dame de la haute vient se plaindre d'un larcin dont elle fut la victime.
Un mouchoir de dentelle, hérité de mon arrière-grand-mère, d'au moins 250 francs à lui seul.
Alors là, cocotte, je ne vous le fais pas dire. N'est-ce pas, soit seul, une insulte aux classes laborieuses ? Oui, j'ai pris des mouchoirs. C'était pour pleurer sur le sort de cette malheureuse, qui possède 4 châteaux. Et qui ne sont pas en Espagne. On a l'air de les plaindre parce qu'on leur a volé quelques malheureux mouchoirs, et on ne s'occupe pas de ceux qui n'ont pas de logis pour s'abriter.
Jacob, ça suffit avec vos discours.
Je veux me défendre. Je ne veux pas que vous m'envoyiez au bagne ou à l'échafaud comme un commissaire-priseur se débarrasse d'un tableau. Nous ne sommes pas des objets, mais des hommes.
Prendre conscience d'être un esclave. Esclave d'un conditionnement qui commence bien avant notre venue au monde. Esclave de la volonté d'un système. Esclave de nos propres peurs. Esclave des mensonges que notre mental nous murmure. Esclave par programmation. Prendre connaissance de nos multiples et pernicieuses chaînes, esclaves et chaînes depuis l'aube de nos temps, espèce soumise à son code génétique. Prendre conscience, au fond de notre âme, de notre cœur ou esprit, nommez-le comme il vous semble juste, mais cherchez, cherchez, osez aller là où l'on ne doit pas aller. Se libérer nous condamne aux yeux de tous les enchaînés. Chacun son chemin, sa voie propre, mais la source est unique et la même pour tout un chacun. Il n'est pas trop tard pour cesser d'écouter votre raison. Arrêtez de réfléchir. N'écoutez que votre cœur. Brisez vos chaînes. Abandonnez votre esclave et vivez. Vivez pour vous, pour l'avenir et la terre. Pas pour un système monde qui pompe jusqu'à votre âme. Le pavillon noir est tissé. Le futur sera préservé par les humains libres. Un corsaire veut encore croire en l'espoir et le portera. quel que puisse en être encore le prix, pour la vie, pour mes frères et sœurs humains, soyez enfin libres.
Je supporte pas qu'on m'interdise.
Je me sens complice. C'est je me sens complice parce qu'à chaque fois,
je mais je me sens pas coupable.
Non,
je ne peux pas faire autrement.
Je suis pris au piège, je peux pas faire autrement. C'est de la poudre aux yeux, ils vont pas dans la profondeur.
Parce qu'il y en a qui sont sortis de la paix parce qu'ils n'auront jamais les
couilles. Mais le guerrier, c'est celui qui ne sort jamais son épée.
Ah bah si, il faut la sortir de temps en temps.
Qui vit par l'épée.
Oui, oui,
il y a contamination. Ça, personne ne le sait.
De toute façon, c'est ça, t'as des idées dans la tête et tout, mais avant que ça passe dans le collectif, étant. Oula, les trucs que j'ai rêvés, je les verrais pas réalisés parce que je vais pas voir ça.
Mais le but, c'est pas de voir réaliser les choses ou pas.
Y a pas de quoi pleurer, y a de quoi gueuler.
Qu'est-ce qui t'arrive avec ton nuage?
C'est un nuage
qui ne bouge pas, statique. Donc, à mon avis, c'est un faux nuage qui est sur nous, monté par Monsanto.
Il est collé sur
nous. Il essaie de nous pousser, de nous étiqueter, de nous code-barrer, tout. Voilà.
Attends, je suis un Indien, je suis un Baudois, on va pas non plus s'écraser.
Ce jour-là, c'était dans les locaux de Quoi-de-Neuf. Nos reporters sans œillères étaient attablés autour du micro. Ce jour-là, ils voulaient un peu cuisiner le monde, le taquiner. À commencer par son ventre. Qui mange quoi et comment? Comment savoir tout ce qui entre par nos bouches? Comment résister à l'influence des politiques agroalimentaires? De la terre à l'assiette, il n'y a qu'une bouche, et les convives sont gourmands. Manger pour vivre ou vivre pour manger? Telle fut la question.
C'est de la poudre aux yeux, ils vont pas dans la profondeur. Je trouve pas qu'ils vont dans la profondeur. Excuse-moi,
des maladies croisent déjà
regardé. Ils vont pas dans la profondeur.
Des pesticides.
D'accord, je te donne un exemple. Moi, autant que spécialiste de la viande, d'accord, quand je reçois un bœuf, toute la partie colon vertébrale, il faut que je la désosse sur un plan de travail à part. Ça, c'est la réglementation qui le dit, c'est pas moi. Sur un plan de travail à part, avec des couteaux qui doivent être d'une couleur différente à part. Avec tout le matériel à part.
Ouais,
pourquoi
quand même. C'est la
pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais réglé ce problème-là. Ouais, la maladie, elle existe toujours. Ouais. Donc pourquoi la réglementation, elle nous impose de toute la partie, la colonne vertébrale, et toute cette partie-là, il faut qu'on la désosse à part.
Oui, t'as plus de côte de bœuf comme avant.
Mais même le fait avec que je vais avec mon couteau et je touche, ou si j'ai le malheur de toucher l'os, ou s'il y a une je sais pas moi, comment mon couteau il touche la moelle, ou machin et tout ça, il y a contamination. Ça, personne ne le sait.
Madame Martin, bonjour.
Bonjour.
Donc, je vais vous poser une question là, par rapport à ce qui se passe au niveau de la chèvre et du chevreau et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette viande? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dommage qu'on ne la trouve plus sur le marché et tout ça? Qu'est-ce que
on
vous
la
pouvez
trouve plus d'une part. Elle a bien baissé au niveau vente. Mais parce que je pense que c'est une viande qui est moins utilisée en cuisine, parce qu'on ne sait plus l'utiliser. On a perdu les habitudes traditionnelles, on va dire. Et donc, de ce fait, eh bien, c'est vrai que les ventes ont énormément diminué. Ça, c'est certain. Nous, en 20 ans, on a diminué de la moitié.
D'accord. Et au niveau gustatif, vous ne trouvez pas que quand même, c'est une viande qui est excellente et qui est saine aussi pour la santé et tout ça?
Tout à fait. C'est une viande qui est très bonne, qui sort de l'ordinaire de tout le reste, donc qui change énormément et qu'on trouve pratiquement qu'une à deux fois par an au niveau du commerce commercialisé. On la trouve au niveau de Pâques, on peut la trouver un peu au niveau de Noël dans certaines régions. Mais après, c'est vrai que c'est une viande qu'on ne trouve pas, donc on apprécie d'autant plus, parce qu'on n'est pas habitué à manger. Mais c'est une viande jeune, c'est une viande tendre, c'est une viande qui a du goût, donc il faudrait la remettre au goût du jour. Mais comment Il faudrait peut-être réapprendre les gens à cuisiner aussi.
D'accord.
Ça aussi, parce que moi je le vends bien, mais dans une clientèle, on va dire, d'un certain âge. D'accord. C'est pas une viande que je vends à des jeunes. D'accord. On cuisine beaucoup moins de viande en sauce ou du reste. D'accord. C'est vrai qu'on utilise beaucoup du rapide.
D'accord.
Donc ça demande chevreau à parler, côtelette un petit peu, mais le reste ça demande d'être cuit au four et d'être cuisiné un peu plus. Donc il faut du temps. et le temps, on ne l'a plus.
Ce qu'on appelle les MRS, maladies à risque sanitaire.
En tout cas, représentatif.
Ce qu'on appelle Creutzfeldt-Jakob, c'est ça ?
Creutzfeldt-Jakob.
D'accord. Est-ce que tu sais que l'Alzheimer et le Creutzfeldt-Jakob, elles sont les mêmes pratiquement ?
Oui, c'est vrai, c'est les mêmes.
Elles sont les mêmes. Donc, comment ça se fait qu'on traite les gens ?
Au niveau du génotype.
Au niveau de la génétique, comment ça se fait qu'on traite les gens ? Comme ça soit une maladie un petit peu qui a plus tendance psychologique, machin et tout ça, et qu'on peut la traiter tout simplement comme on a fait avec la vache folle, et qu'on l'arrête.
Ouais, on les a battus.
Hein. Non, mais. Ouais, mais
l'Alzheimer. On va abattre
Là encore, tu n'as pas
écouté ce que je disais.
Non,
ils
seront pas traités comme on a traité les vaches. On les a pas traités, on les a battus.
Mais c'est ce qu'on fait avec
les vaches. J'aime l'humanité avec ses défauts.
En 1984, Big Brother is watching you. 2014, Big Brother is fucking you. Et ça fait un moment, quoi.
Moi, je pense quand même qu'en matière d'éducation à la santé et à l'alimentation...
Pourquoi j'étais branché Action Directe et tout ? Parce que ça, on avait compris le système. Hein.
Alors, qu'est-ce que tu proposes pour que les choses...
C'est ce que je fais.
C'est ce que je fais. Je fais ce que je peux.
On a ouvert la première coopérative de bouffe bio ici. Ils ne foutront pas de la merde dans mon assiette.
Oui, je peux citer une anecdote.
Mais oui, mais moi, je vois beaucoup plus loin dans la Lozère.
Mais même en Lozère, là, l'autre fois, au foyer rural, on était allé filer la compote qu'on a fabriquée. La nana, elle me dit, quand on donne des goûters aux enfants, si le jus de fruits ne vient pas du supermarché, ils tirent la gueule. Voilà. Non, mais donc.
Oui, mais ça, c'est un peu les enfants, c'est une question d'éducation. Excuse-moi.
Non, mais on est là. Et donc, on est là-dedans. Bien sûr que c'est une question d'éducation.
Premier groupement d'achat bio, la première coopérative bio, c'était moi et ma compagne, ma femme. Oui, on était mariés.
Oui.
Mais attends, si j'étais président de Nature et Progrès, c'était aussi pour faire tourner qu'il y ait du bio. Je ne dis pas que je pense qu'à mon assiette. Je te dis, moi, dans mon assiette, ils ne mettront pas leur merde.
Ouais,
maintenant, c'est à toi aussi de te démerder pour qu'ils ne te mettent pas de merde dans ton assiette.
Moi, c'est fait.
Tout peut être vu comme un cela. Le cela dépend du ceci. Le ceci reflète le cela. L'un est la suite de l'autre. Chacun est inséparable des deux. On ne peut avoir de bien sans mal. De vie sans mort, de vrai sans faux. Le maître n'est pas piégé dans les opposés. Sans son ceci et aussi un cela. Il voit que la vie devient mort, que la mort devient vie, que le bien comporte un germe de mal en son sein et le mal un germe de bien. Que le vrai devient le faux et le faux le vrai. Il comprend que rien n'est absolu, que puisque chaque point de vue dépend de celui qui voit, affirmation et dénégation sont également hors sujet. L'endroit où le ceci et le cela ne sont pas opposés l'un à l'autre est appelé le pivot du Tao. Quand nous trouvons ce pivot, nous nous retrouvons au centre du cercle et nous restons assis là, sereins. Tandis que oui et non se poursuivent l'un l'autre autour de la circonférence sans fin.
Je voulais parler de la bouffe. Pour moi, le frigo, c'est ma boîte à pharmacie, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. Heureusement. Donc, et le placard aussi.
Voilà, et mon placard aussi.
Voilà.
Tu dis au chat, on soigne tout par les
mains. Je suis d'accord.
C'est bien dit.
Voilà,
très bien dit.
Il faut de la bouffe qui ne pollue pas et qu'on ne gaspille pas. Et des médicaments qui tiennent le coup.
Qu'est-ce qu'on fait de tous
les médicaments? Pas 150 000 médicaments.
C'est ça.
Pas 150 000 médicaments pour une maladie. Un médicament.
Moi, je dis, on les désintoxique malgré eux.
Ouais.
Voilà, c'est peut-être ça.
Bah, tu l'as bien dit, ton frigo, c'est ta pharmacie, c'est ton médecin. Voilà.
Moi, le mien, il est vide.
Voilà, mais c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, on n'est pas bien, c'est pour ça qu'on déprime, c'est pour ça qu'on n'a pas tout ce qu'il faut dans le corps pour pouvoir affronter les choses et avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir faire des choses. Tout ça, ça part de là.
Ouais, de la causalité dans laquelle on s'est mis tout seul.
Voilà.
C'est comme ça, l'évolution de l'humanité, ça ne s'est pas fait, on est 36 000 ans après Néandertal. Les premiers engrais, c'était un progrès. Le charbon, c'était un progrès. Moi, je suis passé par là, on a vécu. Ils étaient peu, assez nombreux en Europe. Non, mais c'était pas le problème. C'est que les engrais, c'était fantastique, l'électricité. Puis après, on s'aperçoit qu'il y a des effets secondaires et on en revient là-dessus. Mais les gens commencent à réfléchir. Ça se fait, il y a quand même de l'info. Attends, il y a des...
Oui, mais bon, il y a quand même un engrenage général qui est loin de ce qu'on peut vivre nous ici au quotidien.
Elle est accessible à beaucoup plus de gens qu'il y a 40 ans. Les mêmes sujets.
Ah.
Je te montre des bouquins, La danse avec le diable, c'était...
Là, je suis d'accord.
Peter Schwab, ça a été écrit dans les années 70. Il analyse la farine blanche, tout ça. Mais tu lis ça, le lendemain, j'ai viré tout ce qui était sucre raffiné, sel blanc et tout. Mais on était moins nombreux à être informés. Maintenant, je te dis qu'en France, il y a beaucoup plus de gens qui sont au courant, ou qui s'intéressent.
Mais parce que ça passe dans les deux médias. Côtés, du bon et du mauvais.
Ça passait pas dans les médias. Il y a 40 ans à la télé, j'ai jamais vu une émission sur la pollution, sur la malbouffe et tout. Ouais. Sur les élevages de porcs, les élevages de poissons. J'ai un pote là, qui habite dans les Cévennes. Ah, donc pareil, il sort pas, alors il a même pas le permis et tout. Il dit, depuis que j'ai vu ça, là, le poisson, j'en bouffais plein. Ça va, attends, il y a de l'info. Moi, c'est des rencontres que j'ai faites. J'étais pas plus branché sur la bouffe bio. Mais quand même, bon, sur la bonne bouffe, mon père était cuisinier. Bon, il y avait de la qualité, hein, de toute façon. Mais il y a l'arnaque du système qui a fait de la production industrielle. Et puis voilà, fabriquer des obèses. Bordel, il y a 50 ans, des obèses, j'en voyais pas.
Tu voyais des gens corpulents. C'est vrai que c'est une matière première, l'obèse, en fait.
Mais évidemment qu'ils fabriquent de l'obèse. Avec de la malbouffe, de la graisse de pomme, des trucs.
C'est diabolique. C'est diabolique.
Donc, ce qui se passe...
Ça fait penser, les pensées, ça fait...
Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'alimentation, par exemple, comment ça se fait? On est en Europe et on a un souci, tout simplement, des œufs. On n'a pas assez d'œufs en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'arrive pas à faire des œufs bio pour tout le monde? Pourquoi on fait des œufs de batterie, des machins? Ah, d'accord. Eh bien, c'est la même chose pour la viande. C'est la même chose parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils jouent sur le même truc. Hein. Ils sont à cheval. Hein. Ils disent, oui, les vaches, ça pourrit, la consommation de viande, le machin. Il faut qu'on invente...
La consommation de viande, ça risque de nous mener dans un drôle de circuit.
Dans un drôle de circuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Les moins de viande, c'est tout.
Bah, oui. Mais toi, tu dis ça. Mais c'est toi qui dis ça. Toi, tu dis, Christian, avec ça,
l'atmosphère
2014, est-ce que tu crois que tout le monde est apte de réfléchir de cette façon-là?
Ah ben, j'ai jamais dit ça. Hein.
Mais au-delà de...
Attends, je finis juste ma phrase. 2014 ans de conditionnement, est-ce que tu crois qu'on va se déconditionner?
2014 ans de conditionnement,
oui.
Ça date...
Non mais 2014 ans, en plus, ça veut rien dire. C'est une fausse date et tout.
On s'en fout des dates. Il y a un conditionnement qu'il faut, et il faut un certain temps pour que les gens se déconditionnent.
Il finit sa phrase.
D'accord, il faut un certain temps. Il faut un temps, et c'est à ce moment-là où il y a plein de choses qui se passent.
Je veux revenir un peu sur ce qu'il disait Julien à propos des élevages bovins.
Saké.
Je vais pas rentrer dans un grand débat, j'ai juste balancé deux, trois chiffres, ils sont pas de moi, je les ai juste recoupés pour être sûr que l'info soit bonne. Les élevages bovins mondiaux représentent à eux tout seuls plus de dégâts en termes de réchauffement et machin que tous les transports réunis de la planète.
C'est normal.
Après l'égoïsme d'avoir du bon,
attends, ça bouge.
Le prix en termes d'eau, céréales, etc., d'un kilo viande peut nourrir 20 à 40 personnes à côté.
À propos de l'alimentation, on entend beaucoup souvent parler qu'en faisant de l'agriculture bio, on ne pouvait pas nourrir la planète. Or ça, c'est un gros mensonge. Ça, il faut vraiment le dénoncer. Parce qu'en fait, si on adapte les variétés au terroir, on peut avoir des légumes et des fruits, une alimentation saine et en capacité très importante. Je donne un exemple. Nous, on est dans les Cévennes, on a mis des oignons doux, des Cévennes. C'est un produit du terroir. Ben, j'ai quand même réussi à avoir un oignon qui faisait 895 grammes en lui donnant qu'un petit peu d'eau, sans fumier, sans rien du tout. Sans aucun autre produit, hein, sans traitement synthétique, rien du tout. Donc c'est bien un gros mensonge de notre société. Moi, je pense plutôt que l'agriculture, le paysan doit être en contact avec le consommateur. Et ici, à Florac, on a une chance, on a de la chance, on est en contact régulièrement. On va au marché, on discute avec les... avec les gens, on essaie de leur expliquer, et puis ça passe ou ça passe pas, mais bon.
Vous avez un problème avec la viande? Ok, bah on va vous foutre de la viande, tout simplement, artificielle.
Et vous gaspillerez pas de viande. Ah ouais, mais c'est un éternel débat, parce qu'il y a les gens, il faut qu'ils se lèvent le cul. Hein,
Ceux qui ne peuvent pas se lever le cul, comme ceux qui sont au
moins qu'ils accompagnent ceux qui se lèvent le cul, toi, parce que le coup d'action directe, parce qu'il y en a tellement qui s'écrasent que ça oblige certains à prendre à faire des actions qui, peut-être que si tout le monde avait ouvert sa gueule et puis que tranquillement... Ici, on est dans un pays où on aurait moyen de résoudre le truc sans avoir recours aux armes. Mais attention, moi, je peux prendre les armes et je sais tirer. Je préfère voter. C'est une arme qui n'est pas létale. Ben, je vote, ouais.
Putain.
Ben oui.
Je savais pas.
Ben oui, parce qu'un anarchiste vote et tout, machin. Et non, je ne suis pas extrémiste. Justement, je préfère voter parce que c'est une arme.
Moi, je suis d'accord.
Qui a été obtenu de longue date. Le pire, ne pas avoir à prendre de fusil.
On est sur un sujet, on parle d'armes, on parle d'aigle guerre, on remonte sur autre chose. Juste là, qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là, qu'ils sont en train de nous foutre, qu'ils vont nous foutre dans nos assiettes, qu'est-ce que tu en penses?
Ils ne vont pas le foutre dans la mienne, hein. Il y a 2000 ans, il a dit aimez-vous les uns les autres, ils ont dit ça va, c'est pas encore compris. Hein. Alerter les bébés.